Bienvenue à chacun de vous.
Merci.
Nous sommes dans la présence de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous sommes là les uns avec les autres. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Content de vous accueillir, d'accueillir aussi Priscilla. Voilà, au sein de la scène ce matin, c'était notre sœur Denise. Et puis, il y a Yvette qui est là. Yvette, tu nous entends? Oui, oui, tu nous entends. Très bien. Voilà, Yvette, vraiment, nous souhaitons que, par la grâce de Dieu, tu puisses prendre la victoire et que tu sois avec nous ici. Attends, le temps viendra. Entendu? D'accord, ok. Très bien. Salutations à tous ceux qui sont là. Il y a la famille Chogo, il y a Aurélie, il y a Doris. Il y a Rebecca, il y a Stéphanie, il y a Grace aussi. Donc, soyez grandement bénis. Le temps viendra où nous serons tous ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Bon, alors, tous ensemble là-haut, bien sûr, hein, le temps viendra. Le Seigneur reviendra nous chercher. Mais tous ensemble avant, lorsque nous aurons fini cet auvent avec bien bâché, nous espérons pouvoir faire un seul par la grâce. Le temps viendra. Amen. Alors, vous savez que dimanche prochain, nous commençons un jeûne de prière de 4 jours. D'accord? Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Alors, certains disent que ce sont les jours gras. Eh bien, nous dirons que ce sont les jours de la grâce. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les jours de la grâce, par la grâce de Dieu. Je vais vous présenter le thème tout à l'heure, mais j'aimerais que nous puissions vraiment nous concentrer pendant ces 4 jours-là, soit à la maison, soit ici. Je souhaite qu'il y ait des temps de prière le matin ici, des temps de prière le soir, et nous terminerons par une soirée de louange le mercredi de grâce. Amen.
Amen.
Merci. Voilà. Nous terminerons par un temps de prière, de louange le mercredi. Alors, juste avant de commencer cette prédication, j'aimerais juste vous donner une petite histoire. Il s'agit d'un géomètre qui travaille pour le gouvernement. Et le géomètre vient sur le terrain d'un agriculteur, hein, n'est-ce pas? Hein, et quand il dit garder, miserer le terrain, il travaille pour faire. Mais vraiment, c'est agriculteur de terrain, il n'est pas d'accord. Et puis ça, il fâche, et puis ça, il garde le missionnaire, pas venir dans le terrain. Mais le missionnaire a présenté un papier pour dire garder. Les autorités qui permettent moi de faire ça. Voici cette lettre, je peux arpenter le terrain, je peux faire ce que j'aime. Alors, l'agriculteur fâché, il est obligé de l'accepter. Donc, il laisse le monsieur pouvoir faire ses affaires sur le terrain. Le monsieur va placer ce qu'on appelle un théodolite. Vous savez ce que c'est? Théodolite, c'est ça qui appelle miséré terrain. C'est une sorte d'appareil pour tout. Il y a ça. N'est-ce pas? On voit ça sur la route. Et donc, ça permet de voir effectivement les mesures du territoire. Il y en a comme ça, mais il y aura fait. Et aussi, il y a quelques mois de ça, il y avait un géomètre pour ça. Et lorsque l'agriculteur voit ça, vous savez, il va au bout de son terrain, et puis il a ouvert la porte, et puis il a fait un gros tour. Et puis il est au loin, il dit voilà, montrez les tours à papier. Les papiers du gouvernement devient, comme je dirais, inoffensif, devient devant le taureau. Et vous savez, quand on connaît vaguement, imprécisément, notre position en Christ, cela ne nous aide pas face au danger qui peut nous arriver, des difficultés qui peuvent nous arriver, lorsque nous connaissons très vaguement qui nous sommes. Et c'est bien la situation de bon nombre d'entre nous en tant que chrétiens face aux épreuves, face aux oppressions, face aux blocages, face aux réalités inexpliquées de nos vies, peut-être pas 8 ou pas 4 ans, face aux procès de condamnation. Nous sommes dans une période particulière, je ne sais pas si vous avez observé avec les Twitter et tout ça, on parle de MeToo et de MeToo, l'inceste. C'est assez difficile, ça, n'est-ce pas? Et on peut penser à ces personnes, et parfois malheureusement dans le peuple chrétien, où il y a des pensées de condamnation qui sont données lorsqu'on a vécu des abus, on est entré par une façon dans des vies. Et il y a des pensées de condamnation qui sont là. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de parler librement, mais nous savons que la véritable libération est en Jésus-Christ. Amen. Donc, face à la maladie, face aux difficultés même aussi du ministère, face aux difficultés de la famille, avec un enfant qui est difficile, nous avons besoin de comprendre notre autorité en Christ. Bien souvent, on se sent insignifiant devant les taureaux qui se présentent devant nous. N'est-ce pas? Trop de chrétiens ne réalisent pas leur position en Christ. Trop de chrétiens vivent comme si l'ennemi, l'adversaire, n'était pas à l'œuvre, alors qu'il est là, il est à l'œuvre. Vous savez, nous sommes comme dans un ring. Trop de chrétiens ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Mes amis, le combat spirituel est une réalité qui nous concerne tous, quelles que soient les expériences que nous avons vécues. Certains ont eu des expériences peut-être frontales. D'autres, c'est juste que tu te ressens que quand tu lis la parole de Dieu, anormal. C'est pas normal. Quelles que soient les réalités de ton passé spirituel, nous avons besoin de comprendre notre autorité. Et le temps de jeûne et de prière se fera sur cette thématique. Et nous prendrons, et avant de prier pour ça, il est temps pour nous de mettre les jalons, de comprendre ce que c'est, n'est-ce pas? De définir l'autorité que nous avons en Christ. Et nous pourrons prier pour ça. Et je souhaite vraiment, c'est ce qui est sur mon cœur, que les uns et les autres puissions faire un pas, que nous puissions faire ce chemin vers une autorité en Christ plus pleine, plus entière. Il y a des défis, il y a des réalités que nous avons besoin d'affronter dans chaque vie de nos vies, faire vivre pleinement les bénédictions que nous avons en Christ. J'aimerais prendre Matthieu chapitre 7, verset 29. Matthieu chapitre 7, verset 29. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs passages de la parole de Dieu, plusieurs versets pour définir, pour commencer à définir les contours de cette autorité en Christ. Le premier point que je veux voir avec vous, c'est que l'autorité spirituelle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de nous. Elle est déléguée. Matthieu chapitre 7, verset 29, nous dit quand Jésus finit de prononcer cette parole, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non comme les spécialistes de la loi. Les spécialistes, ils parlaient, ils enseignaient, mais Jésus, lui, parlait avec autorité, et c'était visible qu'il y avait une autorité. Amen. Un autre passage que je vais prendre avec vous, toujours dans les évangiles, Marc chapitre 4, le verset 39. Marc chapitre 4, le verset 39. Nous avons médité ce passage il y a quelques jours, n'est-ce pas, lorsque on travaillait sur les petits groupes et la formation des responsables aux petits groupes le jeudi soir. Jésus, au cœur même de la tempête, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Quand la Bible parle d'autorité, elle utilise ce mot grec exousia. Ce mot grec d'autorité veut dire à la fois autorité, pouvoir, ou encore le pouvoir légitime, le pouvoir réel, le pouvoir d'agir, le pouvoir de posséder, de contrôler, d'user, de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. L'autorité, donc, n'est pas quelque chose que l'on possède en soi. C'est toujours quelque chose qui nous a été donné. C'est toujours un droit qui nous a été accordé par quelqu'un qui est plus haut. C'est le cas dans notre vie courante. Au niveau politique, le président de la CTM ne peut pas faire ce qu'il veut. Déjà, il a un mandat bien déterminé qui a été donné par le peuple. Et au-dessus de lui, il y a d'autres autorités, n'est-ce pas? D'autres autorités politiques. Dans l'armée, le sergent ne va pas commander, n'est-ce pas, le capitaine. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la famille, je ne vais pas vous diriger normalement avec papa. Normalement, n'est-ce pas? Et au sein de l'église locale, Même chose, et on en parlera certainement un peu plus jeudi, l'autorité spirituelle. Ce qui veut dire parfois que nous avons l'autorité et d'autres fois nous sommes soumis à des autorités. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Alors, vous me direz, mais parfois l'autorité est bien assumée, d'autres fois l'autorité est mal assumée. On est d'accord. Mais ça, c'est une autre question. Alors, revenons à notre terme exousia. Ce terme est utilisé de différentes manières dans le Nouveau Testament. Exousia est utilisé pour le pouvoir de ceux qui sont les juges, de ceux qui sont dans les, comment dire, dans les autorités de l'État aussi. Mais exousia est aussi utilisé pour les autorités spirituelles. Et on va parler d'autorité, de trône et aussi de puissance. Et le mot exousia, troisième fois, est utilisé aussi pour le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné à Jésus-Christ. Alors, quand on a dit cela, qu'en est-il de nous? J'aimerais qu'on prenne deux passages dans Genèse chapitre 1, le verset 28, et le psaume 8. Alors, si tu peux mettre un petit signe ou ton doigt dans le psaume 8, on va commencer par Genèse chapitre 8. Il est toujours bon de retourner à la Genèse pour comprendre les choses, comprendre ce que Dieu voulait à l'origine. La Bible dit clairement que Dieu a créé l'homme pour qu'il exerce l'autorité divine sur terre. C'est comme ça qu'il a créé. Genèse chapitre 1, verset 28, peut-être que certains d'entre nous pourraient même le dire, le réciter tout simplement. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. L'autorité dont il s'agit ici est l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, l'autorité créationnelle, avant la chute, avant l'attitude rebelle d'Adam et Ève. Et le psaume 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Prenons-le au verset 3. Le psaume 8, verset 3. Quand je contemple, le psaume commence par une contemplation de l'œuvre de Dieu, par la splendeur de qui est Dieu. Le psaume 8. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ici, là, dans ce texte-là, il nous a parlé de l'homme, du projet même de Dieu pour l'homme, à l'origine, avant la chute. Et observez bien qu'il y a aussi un beau contraste dans le psaume 8. C'est-à-dire, d'un côté, on est en train de décrire la splendeur de Dieu, la magnificence de Dieu, et puis tout ça nous invite à contempler Dieu, et de l'autre côté, on parle de la fragilité de l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? La fragilité de l'homme, la créature de Dieu. Mais observez bien, Dieu est dans sa beauté, oui, mais même si l'homme est faible, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu lui assure une place particulière dans sa création. Dieu lui assure, il lui donne le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit? Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Comprenez ici, dans le texte de Genèse chapitre 1, 28, ou encore le psaume 8, que l'idée même de Dieu, c'est que ce qu'il était en train de réaliser dans le monde, dans l'univers entier, il a créé la terre et il a créé l'homme et il a placé l'homme sur la terre. Il voulait que l'homme puisse réaliser ce que lui-même réalisait dans l'univers entier. Il voulait que l'homme puisse le réaliser sur terre.
Amen.
C'est ça le projet de Dieu.
Amen.
Amen. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu voulait que l'homme soit son représentant sur terre. Dieu voulait que l'homme soit son suppléant sur terre, voire son remplaçant sur terre. Il voulait que l'homme réalise ce qu'il faisait sur l'univers entier. À l'échelle de l'homme, on est bien d'accord, parce que l'homme reste la créature. Mais la chute, le péché d'Adam et Ève, l'attitude de rébellion contre Dieu, a fait que l'homme a perdu cette autorité créationnelle. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia! Parce qu'en Christ, l'homme retrouve cette autorité déléguée. Alléluia! L'homme retrouve cette autorité déléguée en Christ. La filiation, la Bible le dit dans Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Et le terme, ici, c'est le terme insistant à ce que je vous ai donné tout à l'heure. Pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de retrouver la filiation divine. Alléluia! En devenant enfant de Dieu, nous retrouvons notre autorité créationnelle et cela en Christ. Et j'aimerais te dire que l'autorité spirituelle n'est pas un don. L'autorité, un don, chacun nous avons des dons différents, d'accord? Ok? Mais l'autorité spirituelle nous est donnée à tous à la nouvelle naissance. Alléluia! Et tu as la possibilité d'exercer cette autorité sur tes épreuves.
Amen.
Face aux oppressions, face aux blocages qui sont devant toi, face aux réalités que tu as peut-être du mal à expliquer. Mais moi, j'entends, j'écoute. Vous croyez que j'ai le sens de tout ce que j'entends dans les entretiens pastoraux, mais je sais que Dieu comprend. Et je sais que non seulement Dieu a autorité, mais il nous donne cette possibilité de prendre.
Amen.
Amen. Face aux pensées de condamnation, j'en ai parlé tout à l'heure. Des gens qui peuvent vivre dans leur vie sans cesse avec des pensées de. Observez bien, on va le voir tout à l'heure, que Jésus, il a l'autorité de déclarer le pardon sur la vie des hommes et des femmes. Et je crois que nous aussi, après Jésus, d'une façon déléguée, de nos bouches doit sortir ça.
Amen.
Et pardonner.
Amen.
Et il y a des libérations qui peuvent se faire. Alléluia. L'autorité donc n'est pas quelque chose que l'on a en soi. C'est un droit que Dieu accorde aux enfants de Dieu. Vous savez, juste pour parler un petit peu de moi, j'ai observé une chose. À des moments précis dans le ministère, je suis confronté à des choses, effectivement, que je ne comprends pas. Alors, pour dire un petit peu, c'est-à-dire le sentiment d'être oppressé, le sentiment de ne pas savoir comment gérer une situation, elle peut être d'ordre relationnel, ou dans ce que j'ai vécu aussi au début dans lequel j'étais en France, c'est-à-dire un problème vraiment où j'étais à côté du pasteur, une crise d'église, où j'étais à côté du pasteur, et je ne vous cache pas que plusieurs fois de reprise, j'étais, gêné dans mon sommeil, mais gêné d'une manière où c'était pratiquement physique, le sentiment qu'on prenait mon gros orteil. Le sentiment qu'on m'étouffe aussi. Mais je bénis Dieu. Parce que quand voilà, ça réveille, ça interpelle, quand je proclame la parole de Dieu avec assurance, je suis délivré. Alléluia. C'est des choses qui arrivent. Et peut-être que vous avez aussi des témoignages. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes comme des gants, en fait. Et le gant, quand il est vide comme ça, on ne peut pas l'utiliser, il ne sert à rien du tout. Mais quand on met notre main dedans, le gant commence à être utile, n'est-ce pas? Et pour rentrer et vivre pleinement l'autorité que nous avons en Christ, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit rentrer dans nos vies. En fait, le chrétien est comme un gant et il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que ce gant, notre vie, puisse être utile, pour que l'on puisse. L'autorité est quelque chose que l'on ne possède pas en soi-même, mais elle nous a été donnée. Nous avons besoin d'être remplis. Amen.
Amen.
Et tu as besoin d'être rempli de la parole. Tu as besoin, pour exercer l'autorité face à toutes les situations que je t'ai données, de comprendre qui tu es en Christ. C'est ce que je dis, effectivement, rempli du Saint-Esprit. D'accord? Je dis, rempli de la... Mais tu as besoin de savoir qui tu es en Christ. Et parfois, dans certaines périodes de nos vies, lorsqu'on est attaqué d'une façon particulière, peut-être dans nos pensées, peut-être avec des doutes, peut-être avec le sentiment de ne pas avancer, peut-être avec des problèmes qui sont répétitifs, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes libres de la culpabilité du péché. Nous avons besoin de nous rappeler, je pense aux nouveaux baptisés, que nous sommes morts en Christ, ressuscités avec Christ. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est des moments où les choses deviennent très simples. Vous savez, il faut juste prendre les bons versets et prier et proclamer et s'assurer. Amen.
Amen.
Attends que le pasteur vienne te voir. Fais ça. D'accord?
Amen.
Amen. Mais le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Pas dans ton compte à la banque postale ou au crédit mutuel ou au crédit agricole, mais dans ton compte spirituel. Amen. Et tu es une habitation de son esprit. Alors voilà, dire que nous avons une autorité en Christ ne veut pas dire, est-ce que ça veut dire, du moins pour le chrétien, que cette autorité spirituelle est copie conforme de ce que Jésus a. J'aimerais qu'on en prenne Luc chapitre 9, verset 1. Luc chapitre 9, le verset 1. Luc chapitre 9, le verset 1. Et le deuxième point, je vais le dire après, voilà. Luc chapitre 9, le verset 1. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. On a besoin, pour comprendre comment exercer notre autorité ici, on a besoin de se recentrer sur Christ. On a besoin sans cesse de regarder à Christ. Alléluia, le meilleur moyen pour parler de Christ. Jésus a une autorité pleine et entière. Son autorité lui vient de Dieu, qui est la source de toutes choses. Et il le dit dans Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on le voit. On l'a dit tout à l'heure. Jésus va parler avec autorité quand il enseignait. Hein? Pas comme les spécialistes de la loi. On le voit aussi quand Jésus va parler avec, affronter avec autorité les démons. Hein? Matthieu 8, verset 16, on lui emmena de nombreux démoniaques, il chassa d'un esprit, il chassa les esprits d'homme. Aussi face à la maladie, aussi face à la mort, on connaît l'histoire de Lazare. Mais en fait, voilà, plusieurs domaines, et face aux éléments, on a parlé des éléments naturels. Il y a cinq domaines où Jésus exerçait son autorité. Et je crois que ça devra nous parler pour nous-mêmes aussi. Mais observons ce qui se passe. Jésus va déléguer cette autorité. Et il va le donner aux disciples. Il va commencer par le donner aux douze, n'est-ce pas? Et on sait que le douze représente, n'est-ce pas, ce qui est intéressant, surtout qu'on le voit dans Matthieu, chapitre Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. C'est-à-dire qu'il le donne tout d'abord aux douze, c'est-à-dire les douze, ça représente le peuple juif, on est d'accord. Et ensuite, on passe à une autre étape dans Luc. Luc chapitre 10, on passe aux 70. 70, c'est 7 fois 10. 7, c'est le chiffre parfait. 7, c'est le chiffre de la totalité, de la complétude. Qui veut dire que les 70, c'est à nous que Dieu délègue aussi son autorité. Amen.
Amen.
Alors, tout de suite, ce qu'il faut dire pour rendre compte justement de ce que la Bible dit, très clairement, dans la Bible, je parle bien de la Bible ici, on voit bien qu'il y a des actes extraordinaires qui vont être faits à travers les apôtres, à travers les disciples, et d'ailleurs, on peut aussi, voilà, quand on fait un petit peu de recherche dans les églises des premiers siècles, il y a aussi des actes miraculeux. Et puis d'ailleurs, dans les réveils que notre monde contemporain a vécu, il y a aussi des réveils, il y a des actes. Mais très clairement, on voit tout de suite que ce n'est pas exactement la même chose que Jésus. Très clairement, on voit par exemple Paul, vraisemblablement, n'a pas été guéri quand il Jésus va lui dire « Ma grâce te suffit ». On va voir que Timothée avait des problèmes d'estomac. On va voir aussi que Trophime était resté aussi malade à Éphèse. Mais cela ne remet pas en cause qu'à travers l'histoire de l'Église, après la Bible, après les actes des apôtres, que Dieu a toujours eu des moments, des temps où il a utilisé ces hommes et ces femmes, et que des hommes et des femmes remplis d'esprit de Dieu ont exprimé l'autorité spirituelle. Tout ça pour dire quoi? En fait, notre problème, c'est notre compréhension de cette autorité. Avoir l'autorité ne veut pas dire que le chrétien a une autorité spirituelle comme Jésus l'avait. Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, avait une autorité absolue. On est d'accord. Et pour nous, en tant que croyants, ne pas avoir une autorité spirituelle comme Jésus qui s'exprime comme Jésus ne veut pas dire que nous n'avons pas à l'exercer. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire que, parce que des fois on peut prier, on peut, mais justement, et c'est là le piège de l'ennemi, justement. Parce qu'on voudrait que tellement tout soit beau et finalement, on ne fait rien et on n'exerce pas notre foi. Mais dès la parole de Dieu, on voit bien qu'il y a des petits écarts. Parce que Dieu est Dieu et la parole de Dieu nous invite à nous concentrer sur Dieu. Mais par contre, le Seigneur nous invite à développer notre foi. Et ce qu'il faisait dans le passé, il peut le faire encore.
Amen.
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 Vous savez, le gros défi pour nous, c'est de rester dans la présence de Dieu, dans une intimité avec lui, pour vivre et développer notre intimité. Imaginez un policier qui est au milieu d'un carrefour. Ce policier au milieu du carrefour, il peut arrêter, n'est-ce pas, les voitures. Mais si qu'a tiré les gens, il n'y a pas faire, hein? Si qu'a tiré les gens, l'autorégulé. Ce qui veut dire quoi? Nous devons garder notre vêtement. Nous devons rester connectés à Jésus. Et dans ce temps de jeûne que nous saurons, là où nous avons laissé certaines vérités sur nos vies, par rapport à l'Église, par rapport au défi de l'Église, nous avons besoin d'y retourner de la façon la plus simple qui soit, par la parole et la prière. La semaine dernière, nous avons parlé, toute la semaine, des gros défis qui sont devant nous. Mais c'est écrit derrière tous concernés. Les gros défis qui sont devant nous, c'est certes, c'est la pauvreté physique, et Dieu nous demande d'y répondre. Mais nous savons derrière qu'il y a une pauvreté spirituelle. Si nous sommes des chrétiens qui ne savons pas vraiment quelle autorité que nous avons en Christ, on va commencer, on ne va pas aller bien. On va commencer si on sera un petit peu heureux. Ou bien, des plans à fonctionner, nous, là, nous camper. Nous avons besoin de faire face à nos épreuves, à nos oppressions, à nos blocages, aux pensées de condamnation, face aux difficultés dans le ministère aussi, face aux difficultés dans la famille aussi. Nous avons besoin de prendre position. Et cela n'est possible que dans une relation intime avec Dieu. Difficile de résister au diable sans se soumettre à Dieu et à sa parole. Autrement, le risque, c'est qu'on rentre dans un combat sans fin. Est-ce que vous me suivez?
Qu'est-ce que vous allez
faire? Une bagaille, mais on n'a pas le fond. On n'a pas pris le temps de se nourrir.
Après, on met ça.
Et le troisième point, je crois, l'autorité spirituelle est avant tout un rendez-vous avec la vérité de Dieu, avant d'être un rapport de force. Est-ce qu'on peut prendre un dernier passage? Dans Jean chapitre 8, le verset 30 à 33. Jean chapitre 8. Vous savez, souvent on prend un verset. Là, j'ai essayé de prendre trois versets. C'est vrai que je ne prêche pas sur un seul texte aujourd'hui, mais je me suis rendu compte qu'il y aurait tellement de choses à dire dans ce texte-là. Mais j'aimerais juste prendre quatre versets, et pas simplement le verset 32 que nous connaissons bien. Regardez ce qu'il est dit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il parle normalement à des croyants en Christ. Regardez, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc déjà là, il est en train de dire, si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Ok, d'accord. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ah, d'accord. Comment tu dis, vous deviendrez libre? Oh, ça, il le comprend. Plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Mais ils rejettent le fait qu'ils étaient esclaves du péché. Ils rejettent le fait qu'ils ont besoin de liberté. Parfois, nous sommes un peu comme ça. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Des Juifs qui ont cru en lui, mais parmi eux, il y en a qui n'ont peut-être pas bien compris, mais cru, et qui veulent discutailler avec Jésus. Et d'ailleurs, Jésus, qu'est-ce que Jésus va leur dire après? Hein? Jésus, du moins, ils vont dire à Jésus, mais tu es rempli de démons, et Jésus va leur répondre, mais votre père, c'est le tien. Donc on voit bien qu'il y a comme un, comment dire, un fossé entre Jésus et eux. Et c'est bien là notre groupe. Nous avons besoin que les vérités de Dieu non pas passent sur nous comme de l'eau, mais rentrent et inondent nos cœurs. Inondent nos actions de chaque jour. Inondent et dirigent nos vies chaque jour. Jusqu'où pénètre la vérité de Dieu dans ton cœur? La Bible dit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité et la parole, la vérité de la parole, du moins, c'est la clé de la confrontation avec l'ennemi. On peut prendre très facilement les textes de Luc chapitre 4 et de Matthieu chapitre 4, où il est parlé de la tentation de Jésus. On sait que Jésus va répondre par la parole. Et vous savez pourquoi? Parce que l'arme numéro un de l'ennemi, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Depuis, il peut prendre tout. Ils ont gagné. L'ennemi de nos âmes a sa force dans le fait qu'il peut nous tromper. Et vous savez, il nous trompe comment? Depuis il a fait venir ténèbres dans l'ennemi. Ça veut dire quoi? Depuis nous passons qui venait pour avancer à droite ou à gauche. Depuis lumière éteinte dans l'ennemi, nous passons qui s'avance. Alors que le Seigneur m'a donné. Imagine-toi. Une petite lumière qui s'allume dans, je dirais, dans les ténèbres. Dès que la lumière s'allume, les ténèbres se dissipent. On ne voit plus les ténèbres, on voit juste la lumière. Nos yeux s'orientent vers la lumière. Amen. Tout ça pour dire quoi? Si nous acceptons la vérité de Dieu et qu'elle pénètre au plus profond de nous-mêmes, ça qui lui-même, ça vient.
Amen.
Connaître la vérité, voilà ce qui nous rend libérés. Nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes héritiers de la vie éternelle, que le Seigneur nous a connus d'avance, que nous avons été appelés, que nous avons été justifiés, que nous avons été glorifiés, que nous avons été sanctifiés, qu'il a fait de nous de nouvelles créatures, parce qu'il nous a réconciliés à Dieu. Amen. Et nous, c'est pour ça. Que je ne sais pas où tu en es, mais j'aimerais, pendant cette période de jeûne, même avant, que l'on puisse prendre le temps d'un contact avec Dieu, peut-être différemment de la manière dont tu l'institues. Qui connaît ce livre? L'heure qui peut changer. Je sais que plusieurs vont à la maison, parce que nous avons pris un temps pour nous former sur ce. Vous savez, il est bon de revenir aux choses essentielles. Donc, si vous n'y en caillez la carte en la poussière, voyez. D'accord? Je sais que c'est le cas de ça. D'autres ne vont pas. C'est pas grave. Dès cet après-midi, je peux vous envoyer le plan un petit peu de ce livre. Mais, pour vous dire, l'idée c'est quoi? Ce livre nous invite tout simplement à prendre une heure avec Dieu. Parfois, on ne sait pas comment prendre une heure avec Dieu. Il faut l'avouer, c'est pas évident pour tout le monde. Mais au moins une heure. Dans ce livre, il y a 12 temps de prière bien expliqués. Et les 12 temps de prière, tu peux prendre au moins 5 minutes à réussir. Et tu fais une heure passer. Mais dans la réalité, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu aimes la communion avec le Seigneur, tu peux passer plus de temps. 2 heures. Alors, le livre, si vous le voulez, on peut. Un moyen de le commander, voir s'il y en a à la CLC, mais déjà dès cet après-midi, et tu peux, je te donnerai sur WhatsApp la liste des 12 points et réserve un temps. Vous savez, depuis quelques semaines, à travers différentes médications, on invite à cela et on veut arriver à du concret. Comment pouvons-nous comprendre et exercer notre autorité en Christ si on ne prend pas le temps de la prière et de la méditation de la parole, de la parole, de l'appropriation de cette parole. Nous avons besoin de ça. Vous savez, on ressemble à L'image que j'aimerais utiliser, c'est l'image du propriétaire et du locataire. Il y a un propriétaire, nos vies sont comme, comment dire, ce locataire à qui le propriétaire a dit, bon, maintenant, la maison n'est pas bonne, je vais casser la maison et je vais refaire une autre maison. Je vais casser la maison, je vais refaire une autre maison. S'il y a des locataires ici, on aurait eu à voir un propriétaire comme ça, n'est-ce pas? Et le propriétaire a tout refait et il a fait des choses à son goût, mais en étant attentif au locataire. Et puis il met le locataire dans cette maison. Et le problème, c'est que le locataire, lui, il vit comme s'il était toujours dans l'ancienne maison. Nous avons besoin de prendre position dans la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Alors, y a-t-il un ou plusieurs domaines dans ta vie où tu n'as pas la victoire, où tu luttes, où tu vois l'ennemi qui te tient d'une manière ou d'une autre? Y a-t-il plusieurs domaines dans ta vie? Et je crois que le Saint-Esprit est là et peut nous parler. Je t'invite cet après-midi à noter cela sur un papier. Et puis, commence à remercier Jésus pour la victoire qu'il te donne en Christ. Alléluia. Son règne, son autorité est sur cette difficulté, est sur ce problème. Et proclame la victoire dans le domaine que tu as noté. Amen. Et je te transmettrai ces 12 étapes dans la prière. Si tu n'as pas l'habitude de prier, prends ce temps-là, prends une heure. Nous devons prendre 2 ou 3 heures, qu'importe, et puis on peut le faire aussi en couple, en famille. Mais prends déjà 1 heure, 5 minutes. On sait tous dans la culture, c'est possible. C'est possible. Même dans les temps de silence aussi. Vous savez, on a du mal avec le silence aussi. On a du mal. Pourtant, le Seigneur veut juste appliquer son amour à nos cœurs dans le silence. Comment comprendre notre autorité en Christ? C'est de goûter aussi à la grâce merveilleuse de Dieu. Amen. Amen. Tu n'as plus besoin d'être dans la prière. Seigneur, nous voulons juste regarder à toi. Nous voulons juste nous concentrer sur toi. Seigneur, oui, nos vies, face à nos blocages peut-être, face à nos doutes, face à la maladie qui est là, Seigneur mon Dieu, face à comment dire, aux épreuves au sein de notre famille, face à peut-être un enfant qui ne prend pas la direction qu'on voudrait qu'il prenne, Seigneur, nous voulons apprendre à revenir, à nous reconnecter à toi et à comprendre l'autorité que tu as. Tu nous as donné le pouvoir. Seigneur, nous ne voulons pas être des enfants ballottés à droite et à gauche. Nous ne voulons pas regarder les circonstances de nos vies et dire, bon, et bien, c'est comme ça. Seigneur, nous voulons sans cesse revenir en toi. Parce que toi, tu n'as pas dit le dernier mot. Et je te prie dans cet instant précisément, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, la foi puisse monter, Seigneur mon Dieu. Oh, nous voulons avoir cette foi comme le grain de s'élever. Nous voulons penser grand et commencer petit, Père éternel. Et nous voulons vraiment pratiquer dans la prière, dans l'espérance, dans la proclamation des vérités de ta parole, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que nous voyions ta gloire, jusqu'à ce que nous pensions comme tu penses, jusqu'à ce que nous soyons transformés, Seigneur, comme tu le veux, pas face à nos circonstances, face à nos difficultés, face à ceux qui nous atteignent, Seigneur. Nous voulons apprendre. Fais monter la foi.
Oui.
Seigneur, je veux te prier pour ma soeur ou mon frère qui est interpellée ce matin, Seigneur. Je te prie que dans ta grâce, tu puisses ouvrir devant lui, devant elle, le chemin de cette autorité qui vient de toi. Seigneur, en parlant d'autorité, nous n'inventons pas un nouveau concept. En parlant d'autorité, nous n'inventons pas aussi je ne sais pas comment dire, mais Seigneur, phrasé ou bien un folklore ou quoi que ce soit, nous voulons juste revenir à ta parole et vivre selon sa vérité et nous attendre à toi. Et viens à notre secours si nous manquons de foi. Viens à notre secours si, Seigneur mon Dieu, nous te limitons d'une manière ou d'une autre, Seigneur mon Dieu. Viens à notre secours que ce temps de préparation du jeûne, ces 4 jours, puisse être éclairant pour nous. Et que nous puissions sortir de ces temps de prière différemment de la manière dont nous sommes entrés. Viens nous chercher, Seigneur. Viens nous parler. Pardonne-nous toutes les fois. Oh Seigneur mon Dieu, nous sommes contentés de peu, Seigneur. Mais toutes les fois où nous avons amoindri, Seigneur mon Dieu, ce que tu voulais faire dans nos vies et dans ton église, Seigneur. Viens et manifeste-toi. Au nom de Jésus. Et tant à l'heure, Jésus. Oh, tu n'en as pas fini. Oui. Tu veux toujours réaliser des œuvres nouvelles. Viens, ouvre un chemin dans le nom de Jésus.
Amen. Amen.